BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul.
Midi, il est midi sur BFM Business. Bienvenue dans 60 minutes business. Nous sommes au Palais Brongniart pour l'édition 2022 du salon USI, Unexpected Source of Inspiration. C'est le groupe Octo Technologies qui, depuis 15 ans, organise cet événement pour évoquer tous les ans les grandes problématiques du monde avec des scientifiques, avec des experts venus de tous les horizons. Et cette année, on parle de quoi? De l'état de choc. Ces chocs qui, d'habitude, ont la décence de s'espacer dans le temps, mais que nous cumulons, disons-le comme ça, depuis quelques années. Choc sanitaire, choc géopolitique, choc économique et choc environnemental. Comment est-ce qu'on gère au quotidien et quelles solutions pour après? Comment gérer ces chocs? Est-ce qu'on recherche la résilience, c'est-à-dire le retour ou la vie d'avant? Ou on profite de ces chocs pour s'adapter et aller de l'avant? Voilà les thèmes qu'on va aborder tout au long de cette heure en direct sur BFM Business. Ça sera dans un gros quart d'heure, après que Raphaël Couder nous aura donné un aperçu des grands titres de l'actualité de ce lundi. Bonjour mon cher Raphaël.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À la une de ce journal, le projet de loi pour le pouvoir d'achat se précise. Le texte vient d'être transmis au Conseil d'État. Il sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine et on en sait un peu plus sur une partie des mesures avec d'abord Thomas Asportas des annonces qui concernent le logement.
Absolument Raphaël, deux annonces, hein, en fait pas une mais deux. Il y aura pas de gel des loyers, ça le gouvernement on le sait a toujours été contre. À la place il va y avoir un bouclier loyer, c'est-à-dire un plafonnement à 3,5% maximum de la hausse des loyers pendant un an entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, alors que normalement vu le niveau de l'inflation, la hausse des loyer cette année aurait dû être d'environ 5,5%. Le gouvernement a sorti sa calculette et nous affirme qu'un ménage qui paye aujourd'hui à peu près 800 euros par mois de loyer va économiser grâce à ce bouclier 200 euros d'ici à la fin de l'année. Et puis l'autre annonce concernant le logement, ce sont les APL. Elles vont être revalorisées de 3,5% au 1er juillet et évidemment c'est un changement de braquet complet pour démarrer ce deuxième quinquennat par rapport au premier d'Emmanuel Macron qui, on s'en souvient, avait créé une polémique terrible et très mauvaise pour son image sur la baisse des APL de 5 euros.
Les APL revalorisés, Thomas, pour tenir compte de l'inflation, comme tout un tas de prestations sociales.
Absolument. Alors ça, BFM Business vous donnait l'information au début du mois de juin. Quand Bruno Le Maire nous avait annoncé la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu pour tenir compte d'une inflation attendue cette année par Bercy autour de 5,5%, ça veut dire derrière mécaniquement que tout un tas de prestations sociales vont être revalorisées pour arriver elles aussi à hauteur de 5,5%. Ça veut dire les retraites, hausse rétroactive au 1er juillet de 4%, après une première hausse intervenue cette année au 1er janvier de 1,1%. Et puis les minima sociaux, le RSA, la prime d'activité, l'allocation adulte handicapé, les allocations familiales. Là aussi, hausse de 4% rétroactive au 1er juillet après une hausse de 1,8% en avril. Au total, toutes ces prestations sociales revalorisées, indexées sur l'inflation, ça va quand même coûter 8 milliards d'euros aux finances publiques.
Et puis Thomas, des annonces aussi sur l'autre inquiétude des Français, le carburant.
Bah oui, 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 le carburant, les transports, puisque le gouvernement propose dans ce projet de loi pouvoir d'achat, eh bien de doubler cette année et en 2023 la prime transport. Elle passerait de 200 à 400 euros. La prime transport, c'est la prime que les entreprises payent pour prendre à leur charge une partie des frais de carburant de leurs salariés pour leur trajet entre leur lieu de travail et leur domicile. Autre nouveauté concernant la prime transport, elle serait assouplie, c'est-à-dire ouverte à tous les salariés, alors que jusqu'ici elle est réservée à ceux qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de prendre leur voiture parce qu'ils n'ont pas accès au transport en commun ou parce qu'ils travaillent de nuit. Et puis la dernière annonce sur les transports, toujours sans ce projet de loi, c'est pour le forfait mobilité durable, c'est-à-dire l'aide à l'achat d'un vélo ou d'une trottinette. Là aussi, ce forfait sera augmenté de 200 euros, il passerait de 500 à 700 euros. Et puis le dernier point, c'est qu'un salarié pourrait exceptionnellement cumuler cette année et l'année prochaine et la prime transport et la prise en charge à 50% de son abonnement au transport en commun. Alors que la règle aujourd'hui, vous le savez, c'est le paiement de l'un ou l'autre par votre entreprise.
Merci Thomas Asportas. En revanche, tout ne sera pas possible en matière de pouvoir d'achat, a prévenu Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie était ce matin sur BFM TV et au moment où l'exécutif cherche un compromis avec l'opposition justement sur ce projet de loi, Bruno Le Maire a mis en garde, la cote d'alerte sur les finances publiques est atteinte.
S'agissant du carburant, pour répondre précisément à votre question, je veux dire aussi que tout n'est pas possible et que des dépenses supplémentaires de l'ordre de 20 ou de 25 milliards d'euros sur le carburant, comme le proposent certaines formations politiques, elles sont trop coûteuses. Ou alors il faudra renoncer à d'autres choses. Tout n'est pas possible, tout simplement, Apolline de Malherbe, parce que nous avons atteint la cote d'alerte sur les finances publiques. Pourquoi est-ce que je parle de cote d'alerte ? Tout simplement parce que les conditions de financement ont changé. que nous pouvions emprunter à 0%, voire à des taux négatifs, et qu'aujourd'hui, nous empruntons à plus de 2%. Parce qu'une partie de la charge de la dette est indexée sur l'inflation. Donc quand l'inflation augmente, la charge de la dette augmente aussi de plusieurs milliards d'euros. Et que ma responsabilité de ministre des Finances, et je souhaite que chacun l'entende, c'est de revenir à des finances publiques équilibrées d'ici 2027.
Il s'exprime d'une seule et même voix, et c'est assez rare pour être souligné. Les patrons de Total Energy, d'EDF et d'Engie ont appelé hier dans le journal du dimanche à limiter immédiatement la consommation d'énergie en France. Face au risque de pénurie, l'effort doit être immédiat, collectif et massif, indiquent les trois patrons, sous peine de menacer la cohésion sociale l'hiver prochain. Le G7 va resserrer encore un peu plus l'étau sur la Russie. Les chefs d'État des sept plus grandes puissances économiques sont réunis en Allemagne et ils réfléchissent à durcir les sanctions contre Moscou. Les dirigeants travaillent notamment à un mécanisme pour plafonner le prix du pétrole russe au niveau mondial. En France, le Covid est bel et bien de retour. Le nombre de contaminations explose à nouveau et les entreprises ne sont pas épargnées. De plus en plus de salariés sont malades, mais pas de quoi pour l'instant en tout cas déstabiliser les chefs d'entreprise. Caroline Morisseau.
Aucune inquiétude, les chefs d'entreprise sont étonnamment sereins. Tous ceux que nous avons contactés sont pourtant unanimes. Oui, les cas Covid remontent dans les entreprises, mais pas de quoi freiner l'activité ni même désorganiser le travail, nous disent-ils. Les entreprises ont appris à s'adapter, ceux qu'ils peuvent continuer à télétravailler pendant leur période d'isolement. Dans ce contexte, les chefs d'entreprise se contentent de rappeler les règles, isolement, cas contact. Pour le reste, aucune des entreprises que nous avons contactées n'envisage de durcir les règles. Pas de renforcement du télétravail, pas de retour du masque, pas question non plus de lever le pied sur les moments de convivialité. C'est dire si les entreprises semblent avoir aujourd'hui tourné la page. Et l'exécutif est pour l'instant sur la même ligne. L'idée n'est pas de prendre de nouvelles mesures contraignantes, explique-t-on du côté du ministère de la Santé. Une seule mesure est évoquée si besoin, le retour du masque dans les transports. Rien qui soit de nature à freiner l'activité.
A-t-on atteint un plafond dans la hausse des prix de l'immobilier ? Le réseau Century 21 vient de publier ses chiffres du premier semestre et ils mettent en avant une flambée des prix pour les maisons comme pour les appartements. Mais Marie Cœur de Roy, ce sera peut-être la dernière flambée de l'année.
Et oui, est-ce qu'on n'est pas à l'aube de l'assagissement de la hausse des prix ou juste de la baisse des prix ? On ne sait pas ce qui va se passer. Mais en réalité, ce qu'on sait, c'est que là, ça augmente tellement fort que ça ne peut que ralentir en réalité. Bon, là, les chiffres, ils montrent encore une flambée des prix. Effectivement, puisqu'on est en hausse de près de 7,5% sur un an au niveau des prix des appartements, quasiment 11% de hausse de prix sur un an pour les maisons. Pour autant, c'est ce que je vous disais, c'est que le niveau des prix a atteint un tel niveau, c'est devenu quasiment prohibitif, que forcément le niveau de transaction, le volume de transaction, lui, il est en train de baisser. Et attention, ça baisse sérieusement. Près de 8% de baisse de vente sur un an pour les maisons. On est sur une toute petite hausse d'1,7% pour les appartements. Donc voilà, le problème, c'est les prix, ils sont trop élevés. Pour que le marché reparte, il faudra donc que les vendeurs soit un tout petit peu moins gourmand. Et on voit d'ailleurs que c'est ce qui s'est produit à Paris. Ça fait des mois que les prix baissent. Et du coup, là, pour le coup, les ventes, elles repartent. Plus 17% sur un an en termes de ventes à Paris. C'est spectaculaire parce que les prix ont suffisamment baissé. L'autre élément qu'il faudra regarder, ce sont évidemment les crédits immobiliers. Parce que là, ça se durcit aussi et c'est un vrai problème.
Et sur ce sujet, Marie, justement, la meilleure illustration, c'est l'évolution des achats des investisseurs.
Oui, ils sont particulièrement touchés par l'accès au crédit. Et effectivement, là, ça faisait 4 ans que la part de l'investissement locatif, elle augmentait constamment. Sauf que là, boum, c'est la chute, particulièrement à Paris, en Ile-de-France. À Paris, on est redescendu à environ 26% des achats destinés à être loués. 26%, vous allez me dire, c'est beaucoup, sauf qu'en fait, c'est 18,5% de moins qu'il y a un an. Donc, on est sur une baisse massive. Century 21 met en cause la hausse des taux d'intérêt, je vous en parlais. Les divers encadrements des loyers, que ce soit à Paris, en Ile-de-France, mais même dans d'autres grandes villes de France, on le sait très bien. Et puis surtout, la nouvelle réglementation sur les passoires thermiques, bientôt interdite à la location. Le fait est que on est sur une vraie problématique sur l'investissement locatif, et c'était sans compter ce dont vous avez parlé en début de journal, cette idée de plafonner la hausse des loyers, l'indice de référence des loyers. Tout ça fait que l'investissement locatif devient de moins en moins rentable et de plus en plus contraignant.
Merci beaucoup Marie Cœur de Roy. Midi 8 sur BFM Business. On va faire un point sur les marchés avec Antoine Larry Gaudry en direct d'Euronext. Bonjour Antoine. Du vert à la Bourse de Paris, mais du vert qui faiblit à la mi-journée.
Oui, du vert pâle. On était sur un rebond de plus d'1% juste après l'ouverture, à une heure de l'ouverture à peu près, aux environs de 10 heures. Et là, on retombe un peu, plus 0,22% à 6086 points. Alors qu'on a des performances un petit peu plus intéressantes du côté des autres indices européens, notamment l'Eurostock 50 qui gagne 0,8%, 0,9% pour le DAX à Francfort. Il faut dire que la principale dynamique du marché, la principale dynamique qui anime les investisseurs, c'est l'assagissement du côté des taux d'intérêt 10 ans auxquels on a eu droit ces 2-3 dernières séances. On a vu notamment la dette française 10 ans tomber de 3 points de base de rendement, de 2,3% aux environs de 2. Et là, ce matin, ça a tendance à se retendre. 2,07% pour la dette française, 1,52% pour la dette allemande, alors que se tient en ce moment le symposium de Sintra, le grand symposium des banquiers centraux. On pourrait assister à des déclarations qui pourraient rendre le marché encore un petit peu plus volatile qu'il n'est en ce moment, et donc occasionner un petit peu des contre-coups sur le marché action. Bon, là, pour l'instant, on reste sur une progression, mais il faudra être sans doute vigilant à noter les volumes d'échanges qui sont encore particulièrement faibles, sous les 800 millions d'euros d'actions négociées à l'heure actuelle. Leader des progressions du CAC, Veolia qui gagne 2,3% à 24,46, Alstom plus 2,13 à 24,02. On a des valeurs de croissance aussi qui arrivent à bien tirer leur épingle du jeu grâce au taux. Un Capgemini qui gagne 1,8% à 181,60, Dassault Systèmes plus 1 à 37,02. À la baisse, les valeurs de la construction, pas très bien orientées, Vinci moins 1,9% à 86,10 et Bouygues moins 1,6% à 30,35. À noter aussi les foncières cotées qui ne sont pas très bien orientées, alors peut-être un effet du retour du Covid qui pourrait assombrir les perspectives du secteur. Carmila qui recule d'1,8% est à 14,30€. Le CAC donc plus 0,19, 6084 points, et du côté des devises, l'euro dollar toujours largement au-dessus d'un 0,5 à 1,0571.
Merci Antoine, midi 10 sur BFM Business. Allez, on retrouve tout de suite Guillaume Paul au Palais Brongniart pour 60 minutes business en direct de la conférence annuelle USI.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul.
Allez, midi 13, on est de retour dans 60 minutes business au Palais Brongniart. On va prendre de la hauteur parce que nous sommes ici à la 15e édition du salon USI édition 2022 United Spec Source of Inspiration. C'est un événement organisé par le groupe Octotechnologie dont on accueille déjà, et je le salue, le directeur général Ludovic Cinquin. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Bienvenue. Ça fait 15 ans que vous organisez cet événement.
Absolument.
Un peu partout dans Paris. Ça réunit des experts de renommée internationale pour évoquer les grandes problématiques du moment, accompagner les entreprises dans la compréhension des enjeux contemporains. J'ai regardé rétrospectivement, on a parlé de plein de choses ces dernières années, on a parlé travail du futur, éducation, physique quantique, urgence environnementale.
Oui.
Et cette année, on parle des chocs.
Oui.
Je salue au passage notre deuxième invité, on est heureux de l'accueillir, c'est David Elbaz, l'astrophysicien qui est avec nous. Bonjour David.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
État de choc, que faire dans l'après-coup? Parce que on évoque avec vous cette année, oui aussi, c'est le sujet du moment, ces chocs qui, je vais dire, d'ordinaire, avait la décence de s'espacer dans le temps, mais que nous avons cumulé d'une certaine façon ces dernières années. Voilà, choc sanitaire, choc géopolitique, choc économique, choc environnemental. C'est quelque chose d'assez inédit pour nous, finalement, hein, cette accumulation de chocs, Ludovic.
On le redécouvre. Je pense qu'au Moyen-Âge, j'imagine que les gens vivaient des chocs successifs. Mais oui, on a vécu dans l'illusion, sur les dernières décennies, qu'effectivement, les chocs, c'était quelque chose qui devenait rare. Et puis, sur les 10 dernières années, on se rend compte que ça s'accélère un petit peu, effectivement.
Ça s'accélère un petit peu. Alors, on va parler un petit peu de cette problématique. Octotechnologie, on fait le pitch quand même en quelques secondes.
Oui, Octotechnologie est un acteur du conseil en technologie, comme son nom l'indique, et nous aidons nos clients à relever les challenges qui sont liés à la technologie, à la méthodologie et au changement culturel lié au digital.
Et tout ça est évoqué ici pendant deux jours sous le prisme alors, des nouvelles technologies, des sciences, de la psychosociologie. Ce sont tous les profils d'experts qui vont se succéder ici pour des ateliers, des tables rondes.
Absolument, des conférences. Ouais. Et donc on a même des astrophysiciens qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. Ouais. Nous avons des sociologues, des philosophes, des gens qui viennent du monde de la technique, évidemment, mais on essaye d'avoir des regards assez éclectiques pour décoder les enjeux du monde moderne.
On aura celui en particulier de David dans un instant, mais ces chocs, la problématique, c'est de dire quoi ici, finalement? On peut parler contre, évidemment. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'en accommode? C'est ça l'idée fondamentale.
Alors, on a un des speakers les plus connus de l'édition qui s'appelle Nicolas Nassim Taleb, qui a écrit un livre qui s'appelle Antifragile, qui nous a évidemment inspiré pour la construction de cette édition, parce que la thèse de ce livre, c'est de dire, il y a trois qualités, le fragile, le robuste et l'antifragile. Donc, ouais. Le fragile, on casse quand il y a un choc. Le robuste, on casse pas quand il y a un choc. Et l'antifragile, on se renforce quand il y a un choc. Et une des thèses qu'il défend dans son livre et qu'on explore dans cette conférence, c'est que le propre du vivant, c'est l'antifragilité. Pour devenir un sportif de haut niveau, en fait, on détruit ses muscles. Le corps, le vivant, se construit sous l'effet du stress. Et il faut associer le stress et le repos. Quand on a trop de choc, ça commence à devenir un peu problématique.
Sauf que là, le choc devient le quotidien.
C'est notre enjeu. C'est notre enjeu.
Voilà.
Comment on va trouver des éléments qui vont nous permettre de s'adapter au choc, de continuer à avancer malgré ces événements un peu particuliers.
Ouais. Et ça fait partie des questions que vous posez, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que le choc est passé? Est-ce qu'on essaie de revenir au temps d'avant? Est-ce qu'on joue la résilience? Ou alors est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'il faut finalement essayer de s'adapter à cette nouvelle donne et en tirer profit dans la mesure du possible?
Alors, je pense qu'on est dans une époque où de toute façon on ne reviendra pas au monde d'avant. Alors, il y a eu ce débat pendant la pandémie qui était l'avenir, enfin le rêve du monde d'après, ou qui allait être plus beau, plus humain, plus partagé. On se rend compte qu'il tarde un petit peu à arriver, mais de toute façon, on est dans la matrice de quelque chose de nouveau qui est en train de se former, qui est dur à décoder et qui sera enfanté par les chocs que l'on vit aujourd'hui.
Ça fait partie effectivement de l'adaptation. David Elbaz, quand on s'est parlé pour préparer cette émission, ce que vous m'avez dit, j'ai cru comprendre que finalement, ces chocs, c'est toute l'histoire du monde.
Oui. Oui, tout
rien
à fait.
De plus finalement.
En fait, c'est vraiment intéressant parce que là, on est confronté à un choc entre le temps de l'univers, le temps de la planète, par exemple le réchauffement climatique, on pense aux âges géologiques, et puis tout d'un coup, ça nous concerne à l'instant. Les jeunes se disent, je vais peut-être pas faire d'enfant du fait de ce qui est en train de se passer maintenant. Alors, qu'est-ce que nous enseigne l'univers par rapport à ça? C'est qu'il y a eu une explosion, le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, il y a des étoiles qui explosent, il y a des chocs un peu partout. Et il y a une forme de résilience de l'univers qui est capable d'engendrer des structures de plus en plus complexes jusqu'à la vie, depuis le premier atome, qui peut paraître contradictoire avec l'idée qu'on pouvait avoir que le monde tend vers toujours plus de désordre. Et ça, c'est un enseignement qu'on peut prendre pour voir qu'on est en train de vivre une transition effectivement inévitable, mais qu'on peut accompagner si on va dans le sens du courant. Alors, quel est le sens du courant? C'est ça la question.
Le sens du courant, voilà. C'était la question d'après.
Oui, tout à fait. Alors, par rapport à cette question-là, on s'aperçoit, par exemple, qu'il y a... on est en ce moment-là en train de se déplacer à 800 000 km/h dans notre galaxie.
Oui.
D'accord? Et on participe à une vague qui va engendrer des étoiles. On est en train, nous, là, de donner naissance à de nouvelles étoiles sans le savoir. C'est-à-dire que le mouvement cohérent de 100 milliards de galaxies rappelle un peu le mouvement cohérent des 100 milliards de neurones que j'ai dans mon cerveau au moment où je vous parle. Et prendre un peu de recul pour étudier ces transitions-là à l'échelle de l'univers, c'est une façon aussi de prendre un peu de recul sur cette éco-anxiété qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et pour s'apercevoir que finalement, il est possible que les transitions qu'on est en train de vivre puissent aller vers quelque chose de mieux. Et ça, pour moi, c'est fondamental de s'appuyer sur le regard de la science pour essayer d'extraire des principes qui nous amènent vers quelque chose de mieux. Je ne sais pas si vous savez, vous avez vu l'image de Sagittarius A star, le trou noir au centre de la Voie lactée.
Ouais.
Pourquoi s'appelle-t-il star avec une étoile? Parce que le découvreur Robert Brown, en 1982, il était tellement excité par la potentialité de découverte de cet objet-là qu'il a appelé ça star, parce que quand un atome est excité, l'hélium excité, on appelle ça l'hélium star. Ça caractérise pas du tout l'objet, ça caractérise son excitation. Et donc pour moi, on doit vivre un choc star. Le choc des temps, on doit le transformer en choc star qui éclaire et qui nous amène vers quelque chose d'autre.
David, on apprécie votre optimisme. Vous allez parler, je crois, tout à l'heure à 14h30. Comme tous les intervenants, vous allez parler à des dirigeants d'entreprises du CAC 40 et du SBF 120.
Oui.
Qu'est-ce que vous allez leur dire à eux qui ne regardent pas aussi loin que vous, mais qui sont à court terme sur leur business plan et sur leur cours de bourse, pardon. Mais voilà, qu'est-ce que vous leur dites à eux?
Ce qui est intriguant, c'est qu'on n'a pas accès à l'univers qui est loin de nous. C'est totalement inaccessible. Quand on regarde l'univers, on regarde l'histoire du monde. On ne voit pas le présent. Et qu'est-ce que nous dit cette histoire? Elle nous dit qu'est-ce qui fait que le temps change? Qu'est-ce qui fait que les choses sont irréversibles et qu'on ne peut pas revenir en arrière? Et donc, ça nous enseigne que l'idée de contrecarrer le cours du temps, oui, c'est un mythe. Et ça nous enseigne qu'il y a des principes. Je vais vous donner juste un exemple. En 1930, Max Kleber étudie les animaux et il découvre une loi qui relie le métabolisme d'un animal avec sa masse, qu'on appelle la loi de Kleber. Nous venons de découvrir qu'il existe la même loi à l'échelle de l'univers. Et donc, on peut utiliser l'univers comme une sorte de microscope qui révèle des principes qui sont là, qui régissent le monde d'aujourd'hui et auxquels on n'échappe pas. Je pense que la science fondamentale joue un rôle majeur parce qu'elle joue avec des échelles de temps qui vont des fractions de secondes, oui, jusqu'aux milliards d'années et qui sont toutes interconnectées. C'est ça la difficulté d'aujourd'hui. Le choc principal pour moi, c'est cette collision entre des échelles de temps qui ne se parlaient pas avant. Et qui vont s'appliquer à l'économie, ouais, à la politique, à la société.
Concrètement, avec quels enseignements ils vont ressortir tout à l'heure de votre entretien, de votre table ronde, de ces chefs d'entreprise?
Ce que j'aimerais qu'ils retiennent comme enseignement, c'est qu'il y a une vision, qu'on peut avoir une vision beaucoup plus optimiste, ouais, d'un monde à construire qui s'inspire du fait qu'on s'inscrit dans une histoire où cette transition qu'on est en train de vivre aujourd'hui est presque souhaitable. Et qu'elle s'inscrit dans la continuité d'une histoire qui remonte à 13,8 milliards d'années. Ce n'est pas nécessairement un enseignement sur qu'est-ce que je dois faire mercredi à 14h30, oui, mais c'est plus une question de perspective. Le monde dépend du regard qu'on porte sur lui, oui, et se transforme avec le regard qu'on porte sur lui. Donc c'est surtout le regard qui va me concerner.
C'est un peu le message, j'ai l'impression, que vous voulez faire passer à travers toutes ces rencontres. C'est dans une époque caractérisée par l'absence d'époque, justement. Il n'est pas vain de vouloir se projeter, de créer, d'innover. C'est aussi ça le message fondamentalement.
Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que disait David, pendant sa scolarité, on fait de la philosophie, de l'histoire, de la géographie. Et puis finalement, ça ne sert pas fondamentalement dans la vie économique. Oui. Mais ça fait de nous des citoyens, ça fait de nous des meilleures personnes. Et l'objectif de l'UGI, c'est un peu ça, c'est d'être le socle de l'humanité, des décideurs et des managers. Parce qu'à un moment donné, on fait des jobs qui sont compliqués, on a quand même le nez un peu dans le guidon le plus souvent, et se nourrir, enrichir sa culture managériale, mais aussi s'inspirer par d'autres horizons, c'est quelque chose qui, à mon sens, devient très clé aujourd'hui, ouais, parce qu'il faut qu'on prenne du recul, il faut qu'on se pose des questions, et pour se poser des questions, il faut s'être enrichi à des influences différentes. Je ne sais pas si la conférence de David va changer quelque chose demain dans la tête des managers qui vont y assister, mais je pense que ça a planté des petites graines qui vont pousser au bout d'un moment.
Vous voudriez que ça change quoi à long terme, que ça infuse de quelle façon dans l'esprit des dirigeants qui viennent vous voir aujourd'hui?
Alors, c'est quoi, dans les thèmes...
Vous êtes là pour porter un message d'espoir fondamentalement ici. Voilà,
je suis venu pour porter un message d'adaptation. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, donné, c'est ce qu'on disait, nager à contre-courant, c'est fatigant. Donc, oui, il faut embrasser le courant et puis s'abandonner à son flux. Chez Octo, on a été une des premières entreprises à mettre en place les méthodes agiles en France. Mmh. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, à un moment donné où on ne peut plus contrôler ce qui se passe parce que le monde est devenu très complexe, et bien en fait, c'est comment on fait de l'abandon au flux du monde une force, en fait. Mmh. Et je pense que c'est un des sujets qu'on va largement aborder à cette conférence.
Mais c'est pas simple pour un chef d'entreprise, hein, David, je vous rappelle. Je ramène à nos priorités à nous, BFM Business. Chef d'entreprise, wow, c'est un discours qui doit porter quand même.
Vous savez, c'est un discours qui date de longtemps. Ce que les Chinois appellent le wu-wei, le non-agir. On pourrait croire que c'est le fait de ne pas agir. En fait, non, c'est de ne pas agir à contre-courant qui vous donne une plus grande force, la force de la goutte d'eau qui part avec le fleuve. Oui. Mais si vous ne savez pas dans quel sens va le fleuve, vous allez nulle part. Alors vous allez me dire, mais l'univers, qu'est-ce qu'il a à nous dire dans tout ça? C'est un microscope. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'il faut essayer de voir quel est le sens du courant, l'accompagner, plutôt que de se dire freinons. Et essayons de faire que ça arrive plus tard. C'est pas ça le mouvement. Il faut l'accompagner. Il est inévitable. On va changer de société. Oui. C'est inévitable. Les ressources naturelles sont pas inépuisables. Oui. Notre façon de vivre va être... Mais par contre, si on arrive à se rendre compte que la façon de vivre va être pour chaque individu meilleure, tout en étant en accord avec les autres... Alors bien sûr, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on a tendance à penser qu'on en est loin.
Oui.
Mais... c'est exactement ce qu'on voit dans un verre d'Alka-Seltzer. Ça bouge dans tous les sens. C'est de la turbulence dans une galaxie. Mais le résultat, c'est ça qui compte.
Là, vous allez vous adresser à des chefs d'entreprise, mais qu'est-ce que vous diriez aux citoyens lambda de cette planète, finalement?
Pour moi, citoyen lambda, aujourd'hui, je vois des jeunes qui sont traumatisés par la crise. Je vois des jeunes qui disent qu'ils ne veulent plus faire d'enfants parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer au niveau de la planète. Des gens qui se disent c'est la fin du monde dans 3 ans, parce qu'ils n'ont pas nécessairement bien compris le message du GIEC. Dans le message du GIEC sur le réchauffement climatique, il y a un message d'optimisme, on a les moyens en agissant ensemble. Et pour moi, ce que je trouve génial, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous disposons d'un moyen de communication à l'échelle planétaire, Internet. Oui. Nous sommes confrontés à des problèmes planétaires et la prévision des Nations Unies, c'est une stabilisation de la population mondiale dans quelques décennies, c'est-à-dire un état adulte du biosystème humanité. Mmh. On est là face à un enjeu nouveau qui est d'agir à une échelle qui dépasse celui des nations. Oui. Et ça, pour moi, pour les jeunes générations, je trouve que c'est formidable. On va être les témoins d'une transition majeure de notre civilisation vers quelque chose qui peut être beaucoup plus puissant, oui, mais qu'on ne sait pas précisément nommer. Mmh. Voilà.
Ludovic, d'accord avec ça ?
Ah oui, absolument. Enfin, oui. La personne qui a ouvert la première édition de l'USI en 2008, c'était Michel Serres. Et je me souviens de ses phrases où il disait « il y a eu 3 grands moments dans l'histoire de l'humanité ».
Est-ce que vous imaginez à l'époque faire 15 éditions ? Voilà, vous disiez qu'il y aura largement la matière pour dans 15
on
ans,
on n'imaginait rien quand on lance un événement comme ça à la première, oui, édition. Mais quand ça marche, après, on embraye. Mais donc, il disait qu'il y avait eu trois grands moments, l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie et l'invention d'Internet. Oui. Donc, on vit une époque, hein, qui est absolument incroyable, enfin, comme pratiquement aucune génération n'a vécu, et c'est quelque chose à saisir. Alors de temps en temps c'est anxiogène, on voit pas que des bonnes nouvelles, mais c'est un monde en construction.
C'est un monde absolument passionnant.
Et je me souviens d'une phrase d'un monsieur qui s'appelle Maffesoli qui disait la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et je pense que c'est ce qu'on vit. Il y a un monde qui est en train de finir, mais ça n'est pas la fin du monde. C'est la fin de notre monde et ça nous oblige à nous reconfigurer, à réinventer quelque chose. Et c'est ça qui est enthousiasmant.
Vous dites, David, il faut déjà passer le stade de la sidération. Est-ce que le monde a passé le stade de la sidération, de ces chocs qui, je le disais, par le passé, avaient la décence de s'espacer, et là, pas du tout, finalement. On est encore dans la sidération aujourd'hui, pour vous, très clairement.
Oui, vous savez, j'avais rencontré l'écrivain José Saramago un jour, il m'a dit, vous savez qu'on a découvert le chaînon manquant entre l'animal et l'être humain. Je dis non. Il me dit, c'est nous.
Et tout est dit, finalement. Il nous reste quelques secondes. Alors, pour rappeler, peut-être donner quelques noms, donner quelques-uns des grands thèmes qui vont animer ici le Palais Brongniart pendant 2 jours à UCI 2022, Ludovic. Bah, faites-nous rêver un petit peu.
On a beaucoup d'intervenants. On aura un mentaliste ce soir qui va nous décoder le fonctionnement du cerveau. On a accueilli un neurochirurgien, Lionel Nakache. Ouais. On a Nassim Taleb, donc, qui est assez connu pour avoir publié 2 livres, Le Cygne Noir et Antifragile. On a quelqu'un qui était un grand sportif et qui a subi un accident et qui lui a révélé des capacités insoupçonnées. J'oublie évidemment plein de gens.
Éventail de toutes sortes.
Ouais. Quelque chose de très riche, de très éclectique, et c'est notre marque de fabrique.
Merci à tous les deux, en tout cas, d'être passés nous voir pour nous faire le pitch. Voilà, je vous disais qu'on allait prendre de la hauteur, je vous avais pas menti. On est ici à USI 2022 et on va rester jusqu'à 13h en direct sur BFM Business. Merci beaucoup, Ludovic Cinquin, directeur général d'Octo Technologies. Merci beaucoup, David Elbaz. Et puis un bouquin, La plus belle ruse de la lumière, c'est aux éditions Odile Jacob, qui nous parle un petit peu de tous ces thèmes, d'une certaine façon. Oui, merci beaucoup d'être passés nous voir et d'avoir mis, comme on dit, l'église au milieu du village, d'une certaine façon. Merci messieurs. On marque une petite pause, midi et demi. Raphaël Couder vous redonne les grands titres de l'actualité dans un instant. Puis on revient tout de suite avec Lorraine Goumeau. On répond à vos questions avec un mentaliste, effectivement, qui sera avec nous dans les prochaines minutes. Et puis, on donne la parole à ceux qui recrutent ici aussi au Palais Brongniart. À tout de suite.
Le projet de loi pour le pouvoir d'achat se précise. Il sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine et on en sait un peu plus sur une partie des mesures. D'abord sur le logement, avec la mise en place d'un bouclier loyer qui plafonnera à 3,5% la hausse des loyers pendant 1 an. Dans le même temps, les APL vont être revalorisées elles aussi de 3,5%, hausse également pour tout un large éventail de prestations sociales, les pensions de base de retraite, le minimum vieillesse, le RSA, la prime d'activité ou encore les allocations familiales. Tous ces minima sociaux augmenteront de 4% dès le 1er juillet si cette loi est votée. Le gouvernement prévoit par ailleurs des mesures pour inciter et faciliter la mise en place de l'intéressement dans les petites et moyennes entreprises. Ils s'expriment d'une seule et même voix et c'est assez rare pour être souligné. Les patrons de Total Energy, d'EDF et d'Engie ont appelé hier dans le journal du dimanche à limiter immédiatement la consommation d'énergie en France. Face au risque de pénurie, l'effort doit être immédiat. immédiat, collectif et massif, indiquent les trois patrons, sous peine de menacer la cohésion sociale l'hiver prochain. Le G7 va resserrer encore un peu plus l'étau sur la Russie. Les chefs d'État des sept plus grandes puissances économiques réunies en Allemagne réfléchissent à durcir les sanctions contre Moscou. Les dirigeants travaillent notamment à un mécanisme pour plafonner le prix du pétrole russe au niveau mondial. Midi 31 sur BFM Business, on fait un petit point sur les marchés. Le CAC 40 est en légère hausse à midi à 6077 points. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique. On va retrouver tout de suite Guillaume Paul et Lorraine Goumeau au Palais Brongniart pour BFM Business avec vous.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Voilà, midi 32, on est de retour ici au Palais Brongniart pour USI 2022. Les grandes problématiques vues sous le prisme des nouvelles technologies, de la science, des sociologues divers et variés. On était avec l'astrophysicien David Elbaz à l'instant, événement organisé par Auto Technologies. Et on est là, BFM Business avec vous, avec Lorraine Goumeau, comme tous les jours. Bonjour ma chère Lorraine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
On rappelle les modalités évidemment pour nous écrire, hein, nous poser des questions tous les jours. Hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux, avec vous, @bfmbusiness.fr, le site bfmbusiness.com, et je vous rappelle que tout ça, évidemment, c'est totalement gratuit. On est ici, on va faire des expériences aujourd'hui, ma chère Lorraine, hein, c'est ça?
Oui, on va faire des expériences pour vous aider à résoudre vos problèmes en équipe. Alors, c'est un sujet qui vous concerne, qui nous concerne, qui concerne tout le monde dans les entreprises.
On n'a pas de problème, nous, ça va.
Nous, notre équipe, non, ça va. Mais peut-être vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Et donc, on a quelques questions à poser à quelqu'un d'un peu différent, pour changer, puisque cette journée ici au Palais Brongniart, elle est sous l'angle de la transdiscipline. Eh bien, nous avons avec nous Rémi Larousse. Bonjour Rémi.
Bonjour
Rémi, bienvenue.
Le grand public vous connaît, vous êtes mentaliste, vous êtes illusionniste, vous distribuez vos conseils à plein de sortes de gens, mais ce midi avec nous, vous allez distribuer aux entrepreneurs, aux entrepreneuses, aux entreprises. Quelle est votre voix dissonante quand vous vous adressez à ce public professionnel?
Eh bien, je montre comment en tant que mentaliste, en tant qu'illusionniste, notre cerveau peut se tromper, peut être induit en erreur. J'ai passé 15 ans en entreprise et je pratique le mentalisme depuis mon enfance et je combine mes deux passion.
Alors, va falloir nous donner une définition de ce que c'est que le mentalisme, Rémi.
C'est donner l'illusion de lire dans les pensées. Mais je peux peut-être faire une démonstration, si vous le souhaitez.
Sur Lorraine, allez-y.
Sur Lorraine, allez. Alors on va essayer.
J'ai amené
un livre, un thriller. Et Lorraine, je vais le feuilleter. On va parler de ce qui s'est passé là dans un instant. Vous allez m'arrêter, me dire stop quand vous le voulez.
Je pose mon micro.
Stop ici, est-ce que vous voulez cette page ou changer? Vous voulez garder cette page?
Non.
Non, très bien, vous êtes sceptique, il faut. Dites-moi stop quand vous voulez.
Stop.
Stop ici. Regardez, disons, le premier mot sur la page de gauche. Si c'est le ou la, vous passez au mot suivant qui signifie quelque chose. Regardez le premier mot sur la page de gauche. Je garde les yeux fermés. Vous vérifiez que je ne triche pas. Est-ce que vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu.
Il est gravé dans votre esprit?
Il est gravé dans mon esprit.
Parfait. Et je ferme le livre et il n'y a pas de caméra ou de moniteur. Regardez-moi dans les yeux et pensez à la première lettre du mot. Pensez à la première lettre du mot. ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. Je dis l'alphabet à l'envers parce que j'ai jamais su le dire à l'endroit. Hein. Mais est-ce que c'est un V ou un T ou c'est un V, la première lettre du mot?
Oui, tout à fait.
Vous le faites très bien, hein. Regardez-moi à nouveau, pensez à une lettre au milieu du mot. Une lettre au milieu du mot. Est-ce qu'il y a un ZYXWVUTS? Oh, il y a un A dans le mot aussi.
Tout à fait.
Mais ce n'est pas la lettre à laquelle vous pensiez. Hein.
Non.
Elle est au début du mot. Pensez, c'est un petit mot, long mot. C'est un petit mot. C'est le mot vague. C'est le mot vague?
Je dois reconnaître que oui, c'est le mot vague.
Excellent travail collectif. Excellent travail collectif. Et peut-être que vous pensez, Guillaume, qu'il y a les mêmes mots sur chaque page.
Hein, vaguement... Mais oui, Guillaume, c'est
dire... sont bien différents.
Je ne vous dirai pas que je me suis vaguement posé la question, mais voilà. Je confirme, non, a priori, ça n'est pas le même mot à chaque page du tout, du tout, du tout.
Voilà. Alors Rémi,
bravo.
Effectivement, je témoigne du fait que ça se passe en direct et qu'effectivement, vous venez de deviner le mot que j'ai lu. Expliquez-nous, quelle application professionnelle est-ce que vous venez de faire sur nous, sur moi?
Eh bien, regardez, ce que je présente là, c'est un problème. Et comme tout problème, vous allez essayer d'émettre des hypothèses, des explications. Et vous dites peut-être, nos auditeurs se posent peut-être la question, vous dites, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Il doit peut-être regarder les réactions non-verbales sur le visage de Lorraine pour en tirer certaines lettres. Le décodage non-verbal. Votre cerveau a une hypothèse plausible en tête et vous vous allez confirmer cette hypothèse en allant chercher des preuves. Alors qu'en réalité, ce n'est pas la technique que j'utilise. Je n'utilise pas de décodage non-verbal, mais parce que vous avez cette piste en tête, ça vous empêche de trouver d'autres solutions possibles au problème. Et c'est la même chose en équipe. L'enjeu, c'est pas de trouver des solutions, c'est de bien analyser le problème.
Alors là, quand même, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui sont sceptiques, qui se disent un peu c'est de la magie, comment ça devient du management et du coaching ce que vous faites là?
Eh bien, quand je travaille avec des équipes sur des problèmes, par exemple en recherche et développement ou dans des usines, j'essaye de leur montrer avec ces expériences comment il faut analyser correctement une situation. Peut-être que depuis le début de l'expérience, vous vous dites quel est son truc? Vous cherchez un truc. Et c'est parce que vous cherchez un truc que vous risquez de ne pas le trouver. Parce que j'utilise pas un truc, mais plusieurs techniques qui s'enchassent les unes dans les autres. Et c'est la même chose pour les problèmes en entreprise. Il y a souvent pas uniquement une cause unique, mais différentes causes qu'il faut aller chercher. Je fais ces parallèles-là du monde du spectacle vers le monde de l'entreprise.
Alors, vous nous dites en substance, Rémi, et Guillaume va peut-être réagir à ce que je dis, que je suis pleine de préjugés et de préconcepts.
On a tous des automatismes et ces automatismes, ils sont bien utiles dans la vie de tous les jours. Si on n'avait pas des automatismes, on pourrait pas traverser la rue, on devrait analyser en permanence. Mais parfois, quand on est confronté à des problèmes en équipe, il faut savoir se dire, tiens, est-ce que j'ai pas été exposé à une information particulière? Un collègue m'a évoqué ça, ça reste dans mon esprit et ça va m'influencer dans la façon dont je vais percevoir le problème. Il faut prendre conscience parfois de ces pièges qui nous empêche d'agir et de comprendre avec lucidité le problème qu'on essaie de résoudre.
Rémi, vous pouvez nous lister quelques-uns des pièges managériaux ou des automatismes dans lesquels ceux qui nous écoutent, peut-être Guillaume et moi, nous tombons ou nous sommes englués au quotidien?
Alors, par exemple, il y a un premier piège quand on analyse un problème ou quand on prend une décision, c'est ce qu'on appelle le cadrage serré. Souvent, on se dit il faut faire ça ou ça. Et le simple fait de se dire on a cette option ou cette option, ben ça nous enferme dans deux choix uniquement. Il faut réouvrir et se dire ok, exactement. On n'est pas bloqué dans deux options, on réouvre. Piège du cadrage serré. Ensuite, il y a le piège de la cause unique. Attention, quand on analyse un problème, il n'y a pas toujours une cause unique. Et puis, il y a ce fameux biais de confirmation. Vous avez une hypothèse un peu séduisante à laquelle vous vous attachez et vous allez aller chercher tous les faits, toutes les preuves pour confirmer cette hypothèse. On le voit dans le recrutement, parfois notre intuition est bonne, on fait les bons recrutements, mais parfois notre cerveau a construit une histoire au début de l'entretien et cette histoire va nous fausser en erreur et va provoquer des erreurs pendant la suite de l'entretien.
Comment on applique, Rémi, les choses que vous nous décrivez à la résolution de problèmes en équipe? Et pourquoi la résolution de problèmes en équipe, c'est encore plus problématique et en même temps peut-être plus facile?
Alors, ce qu'il faut réussir à faire pour sortir de ces pièges et de ces biais cognitifs, les chercheurs appellent ça des biais cognitifs, c'est réussir en permanence à se reposer des questions ouvertes qui commencent par pourquoi, comment peut-on faire différemment, réouvrir le nombre d'options, utiliser son esprit critique, mais aussi sa capacité d'imagination. Mmh. Et ce qui est compliqué en équipe, c'est que parfois on a les mêmes expertises, on a les mêmes profils. Oui. Il va falloir aller chercher une perspective extérieure et c'est le sens même d'événements comme l'USI de mélanger les disciplines pour chercher un point de vue extérieur.
Alors on parle beaucoup de rationalité, on parle beaucoup de questionnement, surtout en entreprise, vous l'avez dit, les équipes se ressemblent parce que les gens souvent se ressemblent, on recrute, on attire des gens qui se ressemblent. Comment on articule questionnement rationnel et puis je dirais l'imagination?
En fait, il y a une clé qui est importante en équipe. Il y a des chercheurs qui ont appelé ça la sécurité psychologique, être capable d'avoir ce niveau de respect, ce niveau d'écoute ce niveau finalement d'acceptation d'idées un peu décalées. C'est très important parce que pour résoudre certains problèmes, il y a parfois des idées un peu contre-intuitives, un peu décalées qu'il faut faire émerger au sein des équipes. Et quand les membres de l'équipe n'ont pas la confiance ou se sentent pas écoutés, ils vont garder ces idées pour elles et on va manquer une bonne occasion de résoudre rapidement un problème.
Bon, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres. Mentaliste, illusionniste, là on parle management, on parle équipe, on parle collectif. Y a-t-il des différences dans la manière de résoudre ces problèmes rationnellement et ou via l'imagination et ou les deux, quand on est un homme ou quand on est une femme?
Alors, il faudrait regarder les études sur le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est que les pièges de la pensée, ce qu'on appelle les biais cognitifs ou les illusions cognitives, ça marche avec des hommes et des femmes, et ça marche quel que soit le pays. Quand je fais des spectacles en anglais auprès d'Allemands, même de Japonais ou d'Américains, on tombe tous dans les mêmes pièges, on est tous faits du même bois, et c'est ça qui est intéressant, on tombe dans les mêmes pièges, mais le questionnement nous permet de réouvrir et de sortir de ces pièges.
Il nous reste une grosse minute, mais je vais vous poser la même question que celle que je posais à David Elbaz, l'astrophysicien, c'est que vous allez parler aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise du CAC 40, du SBF 120. Leur grand problème à eux, c'est le temps. On agit dans l'urgence, parfois de manière contre-intuitive, mais parce que le temps, le manque de temps implique de prendre rapidement ces décisions. Là, vous offrez pas ça, du temps supplémentaire, vous, Rémi, mais qu'est-ce que vous leur offrez en parallèle?
Je répète souvent que certes, le temps, parfois on a l'impression de manquer de temps, mais oui, la clé, c'est l'attention. Oui, c'est être capable de mobiliser son attention, éviter la dispersion quand on analyse un problème, se centrer sur certaines informations et améliorer la qualité de notre attention quand on résout des problèmes.
Autrement dit, ne pas se focaliser sur le temps qui est pourtant le grand combat contemporain aujourd'hui.
Absolument. Le temps n'est pas la seule variable.
Le temps n'est pas la seule variable, absolument.
Merci Rémi Larousse. On aurait mille autres questions pour vous. Voilà, mais au débeauté, réfléchir en dehors de la boîte, comme on dit avec vous, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant quelques minutes.
Merci beaucoup.
Merci à vous Rémi. Merci de passer nous voir. Rémi Larousse, mentaliste, conférencier, fondateur chez Brain Games avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup d'être passé nous voir. À très vite, avec plaisir sur BFM Business. On marque une petite pause. C'est costaud aujourd'hui, hein. C'est high level, hein. Et on continue parce qu'on va recruter comme tous les jours, évidemment.
Bien sûr, ici au studio ou en délocalisation, on recrute tous les midis. À tout de suite.
À tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Allez, retour ici au Palais Brongniart pour l'édition 2022 du Salon USI. On parle depuis tout à l'heure des grandes problématiques du monde. On est un mentaliste qui est venu nous voir. Je rêverais de pouvoir faire ce qu'a fait notre mentaliste il y a quelques instants.
On va s'entraîner pendant les vacances.
Et on épatera tout le monde à la rentrée. Midi 45, on est toujours ici donc au Palais Brongniart et on recrute évidemment, Lorraine.
Mais oui, on recrute, vous savez, dans les grands problèmes de fond qu'on traite au quotidien, eh bien, il y a ces fameux recrutements ici comme ailleurs. À midi, comme tous les jours, on reçoit deux recruteurs. Notre premier recruteur, c'est Alexandre Dezobry. Bonjour Alexandre.
Bonjour Alexandre.
Bonjour. Bienvenue.
On a actuellement en fait deux recruteurs en plateau. On peut peut-être même les présenter tout de suite d'un même pas. Et on reçoit aussi Philippe Leclerc. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous les deux.
Alexandre, vous êtes le directeur général de Brain Sonic. Philippe, vous êtes à la tête d'une agence qui s'appelle Ad for Screen. On viendra sur vous un petit peu après Philippe. Alexandre, vous et votre équipe, vous vous occupez de communication multimétier. Vous aussi, vous êtes au carrefour de plein de métiers. Décrivez-nous de manière un petit peu plus concrète ce que vous faites avec votre équipe depuis 2003.
Alors, Brain Sonic, en effet, c'est une agence de communication multimétier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a fait le choix dès le départ, dès la création de l'entreprise, d'intégrer toutes les compétences au sein de l'agence. Quand on dit toutes les compétences de la production, du conseil, de l'éditorial, bref, tout ce qui nous permet de maîtriser la chaîne de valeur pour nos clients.
L'enjeu pour vous, c'est un peu le même que pour nous à la télé ou à la radio, c'est l'audience, et je dirais même les audiences au pluriel, parce que quels sont les canaux finalement où vous faites de la com?
Alors, j'irai même un petit peu plus loin, c'est l'engagement des audiences de nos clients. Et là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est traduire une problématique de communication en stratégie qui permet de devenir à nos clients de devenir plus intéressant qu'intéressé finalement.
Plus intéressant qu'intéressé. Alors vous faites ça depuis 2003, on le disait, du côté de Paris, et vous n'avez rien d'une petite boîte parce que vous êtes 130 dans un secteur pas forcément facile non plus, qui a connu aussi beaucoup de disruptions au cours des dernières années. Et vous cherchez à recruter, c'est pour ça que vous êtes avec nous à midi. Qu'est-ce qui explique votre croissance et vos besoins en nouveaux cerveaux et en nouvelles mains?
Alors, qu'est-ce qui explique notre croissance? Déjà, récemment, on a gagné pas mal de nouveaux budgets. Donc forcément, il va falloir staffer pour pouvoir produire ces nouveaux gains. Mais aussi, on a connu 12 ans de période compliquée, le Covid, qui pour nous, on a réussi à l'adresser, puisque depuis très longtemps, on fait de l'événementiel digital. Et donc, c'est une demande qui a été très croissante vraiment à cette époque, a explosé chez nous et qui a permis en fait de soutenir pendant cette période difficile l'agence et continuer toujours à nous développer. Et d'ailleurs ici, dans cet écrin, c'en est un bon exemple.
Est-ce que justement vous êtes ici pour recruter? C'est une des raisons de votre présence?
Exactement. Alors, bon, il y a un contexte marché qui est très particulier, et donc forcément, tous nos confrères ont plus ou moins de difficultés à recruter. Mais c'est vrai que là, actuellement, on est à peu près une quinzaine de postes ouverts, besoin de staffer avant la fin de l'année. Ça va de la partie conseil, des consultants digitaux, du planeur stratégique, à aussi de la production, des chefs de projet, mais jusqu'au développeur ou intégrateur, puisque c'est vrai qu'on doit toujours accompagner les nouveaux usages, ceux d'aujourd'hui et ceux à venir.
Ouais, vous l'avez résumé, Alexandre, effectivement, vous cherchez une grosse quinzaine de personnes qui font des métiers traditionnels de la communication et des agences, en passant par des profils que vous allez chercher dans la tech, parce que c'est une compétence que vous avez intégrée, vous et vos confrères et vos compétiteurs, vos concurrents, pardon, depuis 10 ans.
Oui, ça fait partie de notre ADN même. La tech, l'innovation, c'est ce que viennent chercher nos clients aussi chez nous. Cette capacité à innover, à dénicher les nouvelles tendances. Je pourrais vous citer un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de nouvelles expériences qui se traduisent par du métaverse ou des choses de ce type-là. Bien, ça demande, nous aussi, chez nous, une montée en compétences pour pouvoir aussi évangéliser et accompagner la mise en œuvre de ces nouveaux projets et puis de répondre à ces nouvelles demandes.
Là, par exemple, on va chercher quelles compétences sur le métaverse en particulier?
Alors, ça va un peu, c'est divers et varié, mais ça va du consultant, ça va aller du développeur, de l'intégrateur. Parfois, des gens qui viennent pas du tout de nos univers, des univers de la communication, qu'il faut débusquer pour arriver à les faire venir chez nous.
Et débusquer et former?
Débusquer des gens qui ont déjà ces compétences, qui sont en général plutôt jeunes. Donc c'est une denrée rare, on va dire.
Absolument.
Aujourd'hui.
Alors vous l'avez entendu, voilà des postes très traditionnels dans le métier de la com et moins traditionnels. Je vais vous donner peut-être une adresse pour postuler.
Quand même.
Comment est-ce qu'on postule?
Alors ça se passe sur directement l'adresse qui s'affiche à l'écran, c'est recrutement@brainsonic.com. Vous pouvez écrire directement à Léana de la part de BFM Business. Et puis bien sûr, sur le site carrière de Brainsonic, vous allez retrouver l'ensemble de ces postes. On a parlé de planeur stratégique, on a parlé de consultant, on a parlé côté tech, de développeur, évidemment, plutôt côté back-end. Et puis, pour les plus jeunes, pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, vous cherchez un webmaster junior, c'est urgent pour cet été, voilà, pour justement continuer à être visible.
Et bah tout ça, on recrute un petit peu aussi ici à Usi 2022, là dans les allées, c'est un endroit où débusquer ou éventuellement des talents?
Alors non, pas vraiment, nous ici on est plutôt pour accompagner l'événement,
pour accompagner.
Et pas pour recruter.
Bon, et on vous souhaite en tout cas de trouver les profils. Voilà, tous ces renseignements seront sur nos supports d'ici quelques instants. Je vous redonne les modalités évidemment pour nous écrire, nous poser des questions, hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux avec vous, @bfmbusiness.fr, l'adresse internet, le site bfmbusiness.com. et je vous rappelle que tout ça bien sûr c'est totalement gratuit. On continue de recruter avec Philippe, évidemment, Laura.
Oui, on part dans un univers assez connexe finalement à la communication, puisqu'on part dans le marketing et les médias digitaux. Rebonjour Philippe Leclerc. Vous êtes le président de l'agence Ad for Screen, ça s'écrit AD et la lettre 4 est Screen. Vous avez compris avec vous, on va parler d'annonceurs, pas très éloignés de ce dont on parlait à l'instant avec Alexandre. Vous et votre équipe, depuis 2010, vous aidez les gens à mieux faire parler d'eux. Entre autres, décrivez-nous très concrètement ce que vous faites.
Alors effectivement, on existe depuis 2010 et nous sommes une agence marketing et médias dans les univers mobiles. Mobile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on passe de plus en plus de temps là-dessus.
Oui.
Ça devient un peu l'extension de notre main, voire de notre vie. Et donc, du coup, c'est des nouvelles opportunités, des nouvelles menaces pour les annonceurs en termes de communication. Un exemple très simple, le fait que je sois ici ne m'empêche pas d'acheter, ou au contraire me permet d'acheter au travers d'applications, d'un site ou même en point de vente en me rendant directement sur le lieu de vente. Et donc c'est ce qu'on fait nous chez AdForScreen, on accompagne plus de 130 clients dans leur démarche de, alors certes digitalisation mais surtout mobilisation, de dire comment est-ce que je fais pour avoir une présence et surtout communiquer autour de cette présence, que ce soit recruter des nouveaux porteurs d'applications, parce qu'on sait que quelqu'un qui porte l'application c'est quelqu'un qui va être extrêmement fidèle. Vous en avez plein, j'en ai plein, on s'en sert tous les jours et de plus en plus. Et également les faire donc télécharger l'application, revenir, convertir et toujours dresser une communication permanente avec leurs clients.
C'est-à-dire que pour vous, l'usage des applications, c'est toujours aussi fort. On est toujours dans une logique de on rentre dans une marque par une application, on rentre dans un service par une application.
Alors effectivement, pour vous donner une vision un peu globale, plus de 60% du temps passé digital est fait sur mobile. au sein de ces 60%, plus de 80% de ce temps est passé au sein d'applications. Ce qui veut dire que si vous faites les maths, vous êtes environ 50% du temps passé uniquement dans les applications, et ce temps devient de plus en plus conséquent, la preuve, le replay ou la diffusion de vos émissions.
Et ce, malgré, je dirais, l'interface utilisateur des browsers qui est moins moche qu'avant, si, pour le dire comme ça.
Oui, alors, tout à fait. Alors, chez AdForScreen, on a coutume de dire que le site mobile, c'est les meilleurs prospects, l'application, c'est les meilleurs clients. Ah. C'est un peu la tête et le cœur. Donc, le cœur a ses raisons que...
que la raison ignore, voilà.
Que la raison ignore, merci. Et donc, c'est de dire que lorsque j'utilise mon browser, le navigateur, c'est un sort qui est très froid, très utilitaire. J'ai un besoin sur un temps de session très court. Le temps de session mobile est de l'ordre de 5 à 7 minutes, comparé à du PC 20 minutes. Donc c'est très très court. J'ai un besoin et c'est tout de suite et maintenant. Si vous êtes capable d'y répondre, je vais acheter. Si vous n'êtes pas capable d'y répondre, je vais aller chez le concurrent. A contrario, l'application, il y a une logique affective. On va avoir environ 50 applications sur son téléphone. On va s'en servir d'une vingtaine par mois. Et il y a parfois des cas où vous êtes obligé de trancher entre est-ce que vous gardez l'application ou est-ce que vous gardez la photo de vos enfants.
Et oui, quand il n'y a plus de place.
Quand il n'y a plus de place. Et donc, du coup, le fait de télécharger une application, c'est un vrai acte d'engagement. Et c'est pour ça que, du coup, dans les logiques de multiplication de fréquences, de multiplication de visites, et donc de valeur client, nos annonceurs s'y retrouvent.
Ouais. Bon, dans les applications que vous avez, on espère que vous avez celle BFM Business et que vous n'avez pas à arbitrer entre la photo de vos familles ou de vos vacances et notre application. Alors, très sérieusement, vous êtes 80 à peu près en équipe et vous recherchez à recruter 8 personnes. On ne va pas pouvoir lister les 8 postes, mais qui est urgemment demandé dans votre équipe, Philippe?
Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on cherche à recruter un chargé de recrutement. C'est-à-dire qu'on a déjà
personne... Ça commence souvent comme ça. Hein, voilà.
Exactement. Alors, on a déjà une équipe, on a une personne et demie qui sont chargés des RH chez AdForScreen, et on cherche à densifier cette équipe, puisque effectivement, comme vous le dites, là on a 8 postes, on a même passé à 10 postes depuis qu'on s'est parlé, ouverts. On en avait plus de 25 en début d'année, donc on arrive quand même à bien les remplir et à bien trouver des personnes à potentiel. Néanmoins, on souhaite toujours accélérer puisque c'est en lien avec la croissance de l'activité.
Bon, alors qui d'autre, si on devait lister en rafale là comme ça pour conclure, Philippe, qui d'autre avez-vous besoin de recruter?
Alors, en rafale, on va avoir besoin plutôt côté client, donc que ce soit au niveau marketing, un directeur marketing pour faire mieux connaître nos services auprès de prospects, des business developers, donc des commerciaux, des chefs de projet et consultants, donc des personnes qui sont en lien avec tous nos clients pour les aider dans leur campagne.
Ben voilà, 8 postes à pourvoir au total chez AdForScreen. Comment est-ce qu'on postule, Lorraine, alors?
Bien, ça se passe comme beaucoup d'entreprises sur Welcome to the Jungle. Vous pouvez aussi écrire directement de la part de BFM Business à Amandine, à l'adresse qui s'affiche à l'écran, c'est recrutement au singulier AdForScreen. Je vous rappelle, ad, c'est AD, le 4, la lettre, et puis screen comme un écran en anglais. Tout est dit en fait dans le nom de votre boîte. Voilà, ça c'est pour Philippe Leclerc et cette agence AdForScreen.
Et ben voilà, tout ça est enregistré. Merci beaucoup messieurs, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci Philippe, merci Alexandre d'être passé nous voir aujourd'hui sur BFM Business. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, c'est mardi.
C'est mardi. Alors on n'a pas pu faire notre sempiternelle émission droit du travail du lundi puisque nous étions ici au Palais Brongniart. Mais demain, nous le ferons. Nous répondons à toutes les questions que vous nous avez adressées au cours des derniers 10 jours, on va dire. Oh là, je peux pas vous lister parce que c'est très en vrac. On va parler congés payés, télétravail, recrutement bien sûr. Voilà, tous vos petits problèmes et parfois vos gros problèmes. Demain, on les décortique avec un de nos avocats historiques.
Mais c'est les rafales comme on les aime sur BFM Business. Demain midi et demi, d'où dès midi, bien sûr, on se retrouve pour de nouvelles aventures. On sera mentaliste très... Tiens, un petit truc de mentaliste pour voir si on a déjà progressé. Allez, dans quelle main?
Celle-ci. Et voilà.
Gagné, voilà, ça y est, on y est. On révolutionne l'émission à la rentrée, mesdames et messieurs.
Vous pouvez nous suivre à la télé pour voir Guillaume faire de la magie.
Très bonne journée à toutes et à tous. On se retrouve demain, dès midi, pour de nouvelles aventures sur BFM Business. Bonne journée.
À demain. À demain.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.